Logement à Bruxelles, la crise à tous les étages. Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient et Géopolis E-Radio.
Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce débat consacré au logement et aux crises qui traversent ce logement, des crises qui se révèlent à tous les étages et notamment à Bruxelles. Car la crise sanitaire a rappelé que le droit à un logement digne n'est pas acquis et notamment cette crise sanitaire a montré qu'en fonction du quartier et de la qualité de l'habitat, le logement pouvait être un facteur de protection contre le virus ou au contraire, un vecteur d'accélération de la maladie. Pour parler de cette question, trois invités, Anne-Sophie Dupont du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, le RBDH, Benoît Moritz, vous êtes architecte urbaniste et professeur à l'ULB, et Chloé Salambier, vous êtes anthropologue à l'UC Louvain. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer la discussion, je vous propose d'entendre le propos de Gaëlle Amreix, qui est collaboratrice scientifique à l'Observatoire de la santé et du social, et elle évoque la crise avant la crise.
Donc, si on s'intéresse un peu au constat qu'on peut tirer de la crise du Covid en matière de logement, il faut tout d'abord pouvoir rappeler que la problématique du logement à Bruxelles, elle est antérieure à la crise du Covid. En effet, donc les difficultés d'accès à un logement abordable et de qualité, elles s'inscrivent dans un contexte de fortes inégalités entre Bruxellois et ça dans tous les domaines de la vie. Hein, donc pour un petit peu recadrer, un tiers des Bruxellois vit sous le seuil de risque de pauvreté et donc Bruxelles présente de fortes inégalités, par exemple en termes de revenus, donc est un indicateur socio-économique, et aussi au niveau socio-spatial. Le loyer, ça représente souvent un trop gros poste dans le budget des ménages, et donc si on prend l'exemple d'un bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, on voit qu'un loyer médian à Bruxelles, ça représenterait en fait 70% de son revenu. Donc c'est bien trop excessif, et pour beaucoup de Bruxellois, on voit qu'ils sont amenés à devoir faire des choix parfois cornéliens au quotidien, choisir entre payer le loyer, payer les factures, s'alimenter. Et dans cette continuité-là, on voit que l'accès à la propriété, elle est extrêmement faible à Bruxelles, puisque 62% des Bruxellois sont des locataires. Donc à Bruxelles, la question du logement, c'est surtout une question qui concerne les locataires. Et toujours dans cette idée de problématique d'accès au logement, on voit que le nombre de ménages sur liste d'attente pour un logement social, elle ne cesse d'augmenter en fait depuis plus de 15 ans. Actuellement, donc les derniers chiffres qu'on a à disposition, qui datent de 2019, mettent en évidence qu'on a dépassé les 48 000 ménages qui sont sur liste d'attente pour un logement social.
Un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Alors, pour commencer la discussion, je propose d'aborder ces constats, les constats post-crise sanitaire, avec vous, Anne-Sophie Dupont. Justement, au RBDH, quel constat vous faites par rapport au logement, sachant que, voilà, on l'a entendu, la crise a exacerbé cet accès au logement, cette crise du logement telle qu'elle existait, préexistait en région bruxelloise?
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans la capsule, mais je rajouterais, nous on dit souvent que la crise du logement, c'est le résultat d'une double tendance, donc ce problème au niveau des revenus, mais aussi un problème au niveau de l'augmentation du coût du logement. C'est sûr que les revenus des ménages n'augmentent pas assez, mais parallèlement à ça, le coût du logement, lui, il explose beaucoup plus que l'augmentation des revenus. C'est-à-dire que moi, en tant que locataire, par exemple, si je bouge d'un logement à l'autre, même si mon revenu augmente légèrement d'année en année, je vais toujours mettre plus pour mon loyer. Pareil si j'achète et que je dois rembourser un crédit hypothécaire. Et donc ça, c'est problématique. Et cette augmentation du coût du logement, elle est due à plein de facteurs. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que l'immobilier est devenu vraiment une valeur refuge et un lieu d'investissement pour les investisseurs privés, parce qu'on n'ose plus trop investir en bourse. Et donc d'autant plus, maintenant, on investit dans l'immobilier. Et ça nous fait un peu peur.
Et par rapport à ces constats, Chloé Salambier, vous êtes anthropologue, et vous, durant les confinements, vous aviez recueilli les témoignages d'un certain public, des femmes vulnérables à plusieurs points, et notamment par rapport à cette question du logement. Sans rentrer forcément dans le détail de votre enquête, mais quels sont un peu les constats que vous avez pu tiré par rapport à ce public qu'on sait notamment vulnérable. On pense notamment aux familles monoparentales, mais on a vu aussi que durant la crise, le logement pouvait être un lieu de tension, notamment par rapport aux violences conjugales. Donc, quels sont un peu les constats que vous avez pu tirer sur ces aspects-là ?
Oui, donc on avait démarré un projet de recherche pendant le confinement. C'était une étude comparative entre deux villes, Bruxelles et Barcelone, sur les femmes, le logement et le confinement. Et on s'était intéressé à 5 publics en particulier, des publics qui sont particulièrement vulnérables et invisibles par rapport à l'accès au logement. Donc il faut savoir à Bruxelles que les publics qui sont les plus vulnérables qui sont les plus confrontés à des situations de mal-logement, donc ce n'est pas forcément du sans-abrisme, mais c'est du mal-logement, ce sont les familles monoparentales, les aînés et les personnes isolées. Et il se fait que les femmes sont surreprésentées dans toutes ces catégories, et donc les femmes sont davantage touchées par le mal-logement. Et donc on s'était intéressé plus particulièrement à ce public. Et ce que l'on avait pu, les différents constats qu'on a pu retirer de cette recherche, c'est d'une part qu'on avait de vrais problèmes d'isolement, notamment pour les familles monoparentales et les aînés, qui se retrouvaient vraiment isolés dans leur logement sans pouvoir faire appel aux différents services, aux différentes communautés auxquelles d'habitude elles font appel pour des gardes d'enfants, pour leurs loisirs, pour tout ce qui est lié à la santé, etc. Donc il y avait un isolement extrême qui est déjà présent habituellement, mais qui a vraiment été exacerbé par la crise. Alors bien évidemment, les personnes sans papier, là on était vraiment dans des situations très très problématiques où on est dans des logements qui sont surpeuplés, où d'habitude, en fait, là, c'était des femmes qui sont travailleuses domestiques. Elles passent beaucoup de temps dans les logements d'autres personnes qui sont beaucoup plus confortables, etc. Et là, tout d'un coup, elles se retrouvaient tout ensemble, 75 mètres carrés à 5 personnes. Donc là, il y avait des problèmes de surpeuplement qui étaient extrêmement importants. Et on sait aussi que ces problèmes, donc d'un côté des personnes très isolées et de l'autre côté des personnes qui vivent dans des logements surpeuplés. Et on sait aussi que le surpeuplement, par exemple, peut entraîner des problématiques de violence, mais aussi des problèmes en termes de santé mentale, santé physique. Enfin, ça a un impact très fort, le surpeuplement, sur des questions de violence conjugale et intrafamiliale, parce qu'il y a vraiment une exaspération, non seulement des violences conjugales pendant la crise, mais aussi intrafamiliales, donc envers les enfants, les adolescents, etc. Évidemment, le logement a un impact sur ces différents aspects.
Alors Benoît Moritz, vous avez présidé un comité scientifique. Peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consistait ce comité scientifique, et voir aussi, vous, à travers ce comité, quel constat vous avez pu tirer de cette crise, sachant les éléments qui ont déjà été évoqués et qu'on connaît, hein, qui sont assez prégnants en région bruxelloise.
Donc le comité scientifique logement, c'est un comité qui a été créé par le gouvernement bruxellois, au lendemain du premier déconfinement, donc en mai 2020. Il rassemblait une série d'experts plutôt issus du monde académique à qui le gouvernement adressait une série de questions sur les impacts et les relations qu'il y avait entre le logement et le confinement, et aussi comment est-ce que le logement était un paramètre, que je viens d'en parler, conditionnant la manière dont le confinement avait pu être vécu par la population bruxelloise en général. Et donc il a travaillé pendant les mois de mai jusqu'à décembre 2020 avec une série de la production d'un rapport et une série de recommandations très concrètes sur différents volets, la question de la gouvernance dans la production du logement, hein, qui est un vrai sujet en région de Bruxelles-Capitale. On a évoqué la question de l'augmentation croissante en fait de la demande en logements sociaux, mais aussi du prix du logement à l'acquisition tant qu'à la location. On est dans une crise de l'offre et de la demande en fait, hein, qui est de plus en plus forte. Et donc le premier axe sur lequel le CSL avait travaillé, c'est la question de la gouvernance en fait, hein. Comment est-ce qu'on arrive à produire du logement qui soit abordable plus rapidement? Le deuxième axe, c'était plutôt la question de la rénovation urbaine. Là, ça rejoint également des éléments que Chloé a mis en avant sur la question du paramètre conditionnement du logement par rapport à la pandémie, mais aussi par rapport au vécu du confinement. Et donc là, on avait vu au cours de nos travaux, en questionnant Sienzano, donc l'Institut de santé publique belge, qu'il y avait une concentration en fait des contaminations fortes dans la zone du canal, on va dire, là où le bâti est le plus ancien. Donc voilà, l'enjeu de la rénovation nous paraissait un enjeu très important à adresser. Puis le troisième axe de recommandation, c'était plutôt la question de la résilience du logement, le logement comme un élément protecteur. Et là, on en revient peut-être aux fondamentaux de ce que c'est l'architecture, hein, c'est l'espace dans lequel on est, c'est protéger les gens du climat, des intempéries, etc. Quoi. Donc le logement comme élément protecteur. Puis le quatrième axe, c'était plutôt la question de la connaissance qu'on a par rapport au logement, parce que on n'a pas forcément une connaissance très pointue sur différents sujets. Donc il y a des recherches qui sont faites, mais il y a une absence de connaissance et de lecture transversale. Donc par exemple, on ne sait pas en région de Bruxelles-Capitale combien de bâtiments sont vides réellement, combien de logements sont vides. Donc il y avait une série de recommandations qui étaient plutôt généralistes, hein, qui consistaient à avoir une connaissance approfondie en fait de l'enjeu du logement. Donc voilà, après par rapport à ce qu'on peut retenir aussi je pense de nos travaux, ils ont consisté principalement aussi à dire que le logement était vraiment une actualité, quoi, qu'il fallait s'en ressaisir. Donc c'est ce qui ressort aussi dans la discussion qu'on a eue auparavant et dans la production de ton article, c'est que le logement, ça doit de nouveau être un thème et un vrai sujet. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense qu'au niveau des politiques publiques, ces dernières années, il a un peu été relégué au deuxième rang. Donc voilà, alors que c'est vraiment un sujet d'actualité, tout comme le sont d'autres sujets, comme par exemple la question du climat. Hein. J'évoquais en bouctade tout à l'heure le fait que voilà, moi j'attends. Enfin, le climat, c'est très important, mais j'attends la manifestation de 40 000 personnes qui va se produire ou se mettre en place pour manifester pour un logement qui soit décent et un logement accessible. Donc, on a évoqué aussi l'augmentation du nombre de ménages. Donc, en région bruxelloise, il y a 49 000 ménages. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 110 000 personnes qui sont en attente d'un logement décent, en fait. Donc, on peut imaginer que c'est un chiffre quand même relativement important. C'est plus ou moins 10% de la population bruxelloise. Moi aussi, loin que je me souviens encore des 20 000, des 25 000, des 30 000. On est 49 000 ménages, quoi. On se demande un tout petit peu où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il faut absolument trouver des manières de répondre à cette crise du logement. Et par rapport à ça, voilà, le comité scientifique met l'accent sur la question de la gouvernance, mais aussi la question de la production. Et là où on était peut-être, En gros, on a dit la crise, elle est tellement grande qu'il faut un peu tirer tout azimut à la fois. Quoi. Il n'y a pas un secteur, hein, parce qu'on peut dire oui, il faut produire plus de logements sociaux. C'est vrai, il faut en produire plus, mais quand on regarde la vitesse de la production du logement social, elle est quand même globalement faible en région de Bruxelles-Capitale. Hein. Il y a différents plans depuis différentes années qui envisagent de produire 5 000 logements sociaux, donc le plan régional logement. Je pense qu'on est à 3000 logements sur une quinzaine d'années, c'est rien du tout, alors que la demande augmente en permanence. Et donc, il faut miser sur différents volets, différents aspects et activer différents leviers pour produire ce logement.
Alors, il y a un mot que vous évoquez, c'est celui d'accessible. Donc, je propose d'écouter à nouveau Gaëlle Amreich de l'Observatoire de la santé et du social, qui elle aussi vous rejoint sur cette question du logement de qualité et accessible.
Donc, les impacts de la crise sanitaire sur la population bruxelloise, elle est en fait extrêmement diversifiée. La période de confinement qu'on a toutes et tous connue, elle a ainsi vu des ménages en situation de pauvreté cloîtrés dans des logements trop petits, donc avec des personnes trop nombreuses au sein d'un petit ménage, dans des logements mal chauffés, mal aérés, inadéquats. Et ces logements inadéquats pour les familles en situation de pauvreté, de précarité, elles ont souvent été hébergées au sein de quartiers où justement l'offre d'espaces verts et ludiques pour les familles est moindre. Donc on voit que les conditions de vie qui ont été défavorables pour toute une série de Bruxellois, elles ont exacerbé ou contribué à exacerber une série de tensions au niveau de la famille.
Et donc, si crise de logement il y a, ce n'est donc pas par manque de logement, mais par manque de logement accessible et de qualité, Anne-Sophie. Est-ce que, justement, dans la production, je pense que vous, au RBDH, vous constatez que c'est vrai qu'on produit, mais on ne produit pas forcément au public. Vous parliez tout à l'heure du marché, des investisseurs, donc ce n'est pas forcément un marché qui répond aux besoins de la population.
Exactement. Donc, à Bruxelles, on produit environ 3800 nouveaux logements par an, ce qui est pas mal, comparé aux projections démographiques qui sont faites, où on estime qu'on devrait produire environ 1300 logements par an d'ici 2030 pour répondre à la demande. Donc le rythme de production de logements neufs est bien, mais on ne produit que du logement, enfin quasi, à 90% du logement privé, du logement cher, donc au standing, et des petits logements. Ça, c'est problématique aussi parce que Bruxelles a besoin, les Bruxelloises et les Bruxellois ont besoin de logements grands pour accueillir les familles, parce qu'il y a une pénurie de grands logements à Bruxelles. Des logements publics et surtout accessibles, donc sociaux. Et donc, là, il y a un problème, quoi. Et quand on regarde la politique du logement à Bruxelles, on remarque qu'elle est essentiellement axée sur l'accès à la propriété, alors qu'on l'a vu, il y a beaucoup de ménages qui ne sont pas en capacité d'acheter, ou peu. Alors, ça prend plein de formes, hein. Des primes rénovation, des réductions des droits d'enregistrement. Il ne faut pas oublier que tout ce qui augmente la capacité des gens d'acheter, ça fait aussi augmenter les prix du logement à plus long terme, parce qu'il y a plus il y a de demande, plus les prix augmentent. Donc, c'est intéressant à court terme pour les ménages, mais à long terme, on va un peu droit dans le mur. Elle est aussi dirigée essentiellement vers la classe moyenne. Donc, je mets des guillemets à classe moyenne parce que c'est un beau mot, tout le monde s'y reconnaît. Tout le monde pense être dans la classe moyenne. Or, on se rend compte que souvent, quand les logements destinés à la classe moyenne, même dans les logements publics, c'est pour des revenus quand même relativement élevés. Et enfin, le politique se repose de plus en plus sur le secteur privé. Et donc, à la place de produire du logement social, on va mettre le paquet sur les logements mis en agence immobilière sociale. Donc ça, c'est un système qui permet de socialiser du logement de manière temporaire, du logement privé. Donc ça veut dire qu'on injecte des subsides pour que le loyer soit socialisé. Comme ça, le propriétaire bon, il touche un loyer plus bas que ce qu'il aurait sur le marché privé. Mais il y a aussi un petit subside qui est là pour que le locataire paie encore moins cher. Et le logement est socialisé minimum 9 ans. Mais c'est temporaire. Voilà.
Donc, mais en même temps, Benoît Moritz, vous disiez qu'il fallait frapper tous azimuts. Hein. Et justement, c'est aussi un point qui revient par rapport aux conclusions du comité scientifique. C'est, je ne vais pas dire une alliance privé-public, hein, mais une meilleure collaboration entre le privé et le public. Vu le besoin massif, est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se passer du privé? Et est-ce que le public, finalement, a le pouvoir de reprendre la main, vu que vous disiez en plus que le logement était une question politique?
Peut-être, donc... oui, en fait, le public ne produit pas assez vite. Hein. Et malgré tout, je pense qu'il y a une volonté publique de produire. Mais elle se heurte à différents écueils au niveau de la propriété foncière, mais aussi quand un projet de logement social arrive dans un quartier, quel qu'il soit, il est compliqué, en fait. Et les pouvoirs publics, y compris les sociétés de logements sociaux, sont redevables de réponses vis-à-vis des habitants, etc. Et ça freine les projets, en fait. C'est vraiment... un problème très important, en fait, c'est presque le problème principal, en fait, hein, parce que la volonté publique, l'argent, les budgets sont là, mais il est compliqué d'obtenir les permis pour réaliser les projets, où que ce soit, plus ou moins. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On voit dans la délivrance des permis que c'est plus facile d'avoir un permis à Anderlecht en deuxième couronne qu'à Uccle ou à Olué, par exemple. Mais voilà, la volonté politique et les projets sont là. Alors, de l'autre côté, il y a les secteurs privés qui, lui, produisent assez rapidement. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a pas cet écueil hein, de la résistance locale, etc. Écueil légitime ou pas, je n'en sais rien. Mais enfin, du coup, il arrive à produire assez rapidement. Du coup, effectivement, il y a ce mécanisme des AIS qui s'est mis en place. Alors, pour le moment, ce sont des engagements sur 10 ans. Hein, voilà, le comité scientifique logement, dans nos travaux, on a estimé qu'en fait, c'était quand même un mécanisme qui était intéressant, mais qu'il fallait arriver à pérenniser plus longtemps, voire à obtenir, un peu comme dans un leasing de voiture, vous louez pendant X années, à la fin, vous pouvez racheter, quoi. Voilà, donc vous pouvez, les pouvoirs publics devraient pouvoir, au bout de X années, racheter les biens et en devenir propriétaire. Hein, donc, j'aime pas trop la comparaison avec le leasing de la voiture, parce que ça parle de voiture, mais le principe, il est important. Dans un leasing, vous payez pendant X temps un loyer de location, et à la fin, ben, on vous dit, ben, il reste un petit bout à payer en une fois. Et donc, on devrait, sur la question du logement produit par le privé et mis en location type AIS, pouvoir arriver à quelque chose un peu similaire, c'est-à-dire de pérenniser finalement le logement social, mais en se disant qu'il est produit par le privé, qui devient social au bout de X années, véritablement social. Maintenant, là où il y a un sujet ou une discussion par rapport à ce mécanisme, c'est que le logement produit par le privé ne correspond pas forcément à la demande du logement social. Hein, donc, voilà, les grandes familles, etc. Le privé, lui, va plutôt chercher à faire des petits logements qu'il peut vendre rapidement, théoriquement. Donc là, il y a quelque chose à régler aussi, de manière à ce que cette production du logement produit par le privé, potentiellement socialisable à travers, à travers le mécanisme d'AIS, puisse correspondre à la demande.
Chloé Salambier, vous vouliez réagir ?
Oui, mais je voulais réagir par rapport à ça, parce qu'on a quand même fort en tête en Belgique et à Bruxelles que le logement, il est soit produit par l'État, soit par le marché, comme s'il n'y avait que deux acteurs. Et puis aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'une troisième voie, hein, qui a été beaucoup expérimentée dans d'autres pays, en Allemagne, en Suède, en Norvège, enfin dans tous les pays du Nord, et qui sont, donc c'est cette troisième voie des communs, où on a des nouvelles formes quand même très innovante de production de logements via des coopératives, via des fondations. On a quand même à Bruxelles le Community Land Trust qui est dans une vision justement où ces subsides qui sont octroyés par exemple à un propriétaire privé pour faire du logement en AIS, ben, ils sont perdus quoi, quelque part. Alors que quand on est dans un modèle CLT, ben, le subside fait que le terrain appartient à une fondation et jamais il y aura la possibilité que ce terrain ne revienne dans le marché spécifique. Alors qu'en fait, dans les modèles où on subventionne pour de l'AIS, où on donne des subsides à la rénovation, où on fait du logement moyen via CityDev et on facilite l'accès à la propriété des classes moyennes, bah en fait, tout cet argent public-là, il n'est pas... assurer pour la pérennité du projet qui est de produire du logement digne, abordable, accessible, etc. Alors que, en fait, il y a toute une série quand même de freins aujourd'hui juridiques, financiers, etc., qui ne permettent pas de produire des coopératives de logement, de se mettre, d'avoir des collectifs qui ont la capacité ensemble de produire du logement, alors qu'il y a une volonté, il y a quand même pas mal de collectifs, que ce soit des collectifs citoyens ou des associations. Même il y a plein d'associations qui travaillent dans le secteur de la santé, qui travaillent dans le secteur de la réinsertion, etc., qui sont aussi qui ont aussi une vision sur ce que pourrait être du logement demain, beaucoup plus collectif, dans une visée où on n'est plus chacun propriétaire avec cette vision très individualiste du logement, mais où on a une visée beaucoup plus collective d'accessibilité à ce droit, en fait, et à cette ressource.
Benoît Moritz, par rapport au commun, c'est une voie...
Oui, c'est effectivement une autre voie, et le comité scientifique logement indique clairement qu'il faut en fait massifier ces expériences. Parce que pour l'instant, elles sont encore des épiphénomènes, en fait, à quelques endroits, il y a quelques projets qui sont certainement, enfin, qui sont très intéressants, effectivement, mais il faut arriver à massifier, donc, par exemple, sur la question de l'habitat coopératif. On sait qu'il y a des villes comme Bâle, Zurich, etc., les villes suisses surtout. Voilà, on sait que via des aides d'État un peu indirectes, on incite en fait à produire du logement abordable de cette manière-là. À Bruxelles, le CLT, je n'ai plus le chiffre en tête, mais pour l'instant, a produit très peu en fait.
Hein. Une
centaine de logements, voilà. Pourtant, c'est une piste à suivre dans les années à venir, mais il faut massifier. En fait, il faut quand même faire du quantitatif. Moi, alors peut-être qu'on pourrait me le reprocher, mais je suis pour la quantité, en fait. Parce qu'à un moment donné, voilà, ces petites expériences sont très sympas, etc., mais il faut produire en masse, parce qu'il y a une demande qui est massive, elle également, qui ne fait qu'augmenter. Voilà.
Je vous propose d'avancer dans le débat avec un aspect aussi qui a été évoqué durant la crise, c'est celle des expulsions. On va écouter à nouveau Gaël Emmerix de l'Observatoire du Social et de la Santé qui évoque ces aspects-là et qui explique aussi quelle est la cause principale de ces expulsions.
Le moratoire, il a effectivement gelé temporairement les expulsions domiciliaires et les coupures de courant, mais il n'a pas gelé les compteurs. De façon très, très schématique, il a permis, donc ce moratoire, il a permis d'éviter pour toute une série de familles d'être expulsées. Il leur a permis d'éviter d'avoir des coupures de courant et donc de s'assurer des conditions minimales de logement. Mais néanmoins, il a postposé la problématique jusqu'à la fin du moratoire. Mais dans toute une série de situations, on voit qu'en fait, il a renforcé, creusé davantage le trou de difficultés pour toute une série de familles, dans la mesure où la problématique des arriérés de loyers et de factures impayées, eh bien, ce trou, en fait, il s'est encore accru pour toute une série de familles au cours de cette crise sanitaire. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadre des expulsions domiciliaires, on voit que pour une majorité d'expulsions qui interviennent dans le cadre d'expulsions judiciaires, le motif principal rencontré, ce sont les arriérés de loyer. Concernant la problématique d'expulsion et les leviers, donc ça concerne l'effectivité du droit au logement. Et dans ce cadre-là, en fait, il faut pouvoir renforcer l'offre de logement. Et cette offre de logement, elle doit être de qualité.
Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passer les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends le dommage, je n'attends personne.
Est-ce qu'il faut désannoncer Michel Polnareff ? Telle sera la question finale de cette émission. Mais revenons au logement et aux crises qu'ils traversent. On évoquait effectivement la politique, le logement comme enjeu politique. Et bien justement, la région bruxelloise a un plan d'urgence logement. Alors, certains diront que c'est un énième plan, d'autres diront enfin. Pour aller vite et en quelques lignes, l'ambition, c'est de proposer plus de 15 000 solutions pour les ménages en attente d'un logement social d'ici 2024 à Bruxelles, et aussi de veiller ou de tenter de veiller à, alors si on ne peut pas parler d'encadrement des loyers, mais en tout cas de s'y approcher avec une grille indicative, par exemple, hein, qui reste indicative. Hein. Mais justement, Anne-Sophie du RBDH, est-ce que on entendait Gaëlle Emmerichs parler justement par rapport aux expulsions et qui ont repris maintenant qu'une des causes c'était les arriérés de loyer, sachant qu'il y a une majorité de Bruxellois qui sont locataires, est-ce que vous avez l'impression que le plan d'urgence logement va dans le bon sens? C'est un premier pas ou c'est un effet, une solution sparadrap, comme
on les appelle, nous, effectivement. Comme vous les appelez, oui. Donc, les deux mesures phares, quand même, du plan d'urgence logement pour le marché locatif privé, c'est aussi une allocation loyer, ça, je vais quand même l'évoquer, donc qui consiste à donner une petite allocation pour toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente du logement social et qui touchent le revenu d'intégration sociale, donc c'est certaines personnes de la liste d'attente. Ça, c'est une des mesures phares pour arriver à cette solution pour 15 000 ménages. Nous, on trouve que c'est intéressant, mais ça n'a pas de sens tant qu'il n'y a pas de véritable encadrement des loyers. Pourquoi ? Parce que ça, encore une fois, ça va être absorbé par le marché. Donc, on augmente la capacité des ménages à payer le loyer. Si on n'encadre pas les loyers derrière, les loyers vont augmenter et on sera au même problème. Donc, ce qui est fait pour tenter de encadrer le marché, mais je n'appellerai pas ça comme ça, c'est un projet de commission paritaire locative. Donc, ce serait un organe, donc c'est le projet du gouvernement, un organe composé paritairement de représentants des bailleurs et des locataires. Cette commission pourrait être saisie, entre guillemets, par un locataire ou un bailleur qui estime que son loyer est abusif. Abusivement trop haut ou trop bas pour le bailleur. Et donc, ça est annoncé comme étant un projet pour lutter contre les loyers abusifs. Nous, on trouve ça un peu bizarre que un bailleur puisse la saisir pour faire augmenter le loyer. Mais il n'y aura rien de contraignant, donc ça, c'est encore un peu bizarre. Rien de contraignant là-dedans. On peut demander un avis et la commission peut faire office de conciliateur entre les parties. Après, le locataire pourrait éventuellement, ou le propriétaire, aller en justice de paix parce que le juge, lui, peut décider déjà. Pour faire changer le prix du loyer. Et ce qui pose question également, c'est la référence de loyer sur laquelle cette commission paritaire est censée se baser. Donc, il y aura une grille des loyers qui sera publiée et qui se basera sur les prix du marché. Alors, nous, on dit que les prix du marché, ils sont déjà trop élevés. Donc, pourquoi s'en servir comme norme pour décréter qu'un loyer est abusif? En plus, il ne sera déclaré abusif que s'il est 20% au-dessus de cette norme du marché. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est très absurde. Le propriétaire, lui aussi, pourra avoir son loyer déclaré abusivement bas s'il est 30% en dessous que les prix du marché. Mais voilà, nous, on trouve ça un peu...
C'est une commission pour rien, absurde. Selon vous.
Comment ?
C'est une commission pour rien, une solution pour rien, finalement.
Ouais, c'est un peu pourri. Surtout qu'on sait
pourri,
déjà...
Non, pas pourri, j'ai dit pour rien.
Ah, ben voilà, c'est mon oreille qui voulait entendre ça. Mais j'ai envie de dire que c'est pourri parce qu'on sait déjà qu'en justice de paix, c'est 90% des cas où ce sont les bailleurs qui vont attaquer leurs locataires en justice. Les locataires n'osent pas aller en justice de paix. Ils n'osent pas. Qui a envie de se mettre le propriétaire à dos? On a déjà eu du mal à décrocher un logement. Il est peut-être trop petit, un peu insalubre et trop cher, mais en fait, pour certaines personnes, c'est tout ce qu'elles arrivent à trouver. Et donc, il y a trop de risques pour le locataire. Donc, là, on rajoute une étape. Voilà, le locataire pourrait éventuellement aller en justice après, mais est-ce qu'il osera le faire ? On ne sait pas. Donc, le problème, c'est que la charge, la responsabilité repose sur le locataire de devoir prouver que son loyer est trop cher, alors que le contrôle devrait venir d'en haut. Ça ne devrait pas être à lui de le faire. Il est déjà dans une position très compliquée. Le rapport de force entre bailleur et locataire est beaucoup trop disproportionné. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a l'État qui est censé intervenir pour rééquilibrer ça.
Benoît Moritz, vous parlez justement de gouvernance dans ces aspects-là. Est-ce que, par rapport à cette question des loyers, cet encadrement, est-ce que c'est un aspect aussi qui était évoqué lors du comité ? Et on sait, et ça c'est un aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, le marché privé, une partie du marché privé, pallie le manquement public, notamment pour le public le plus précaire. Est-ce que justement, que ce soit en termes ou de rénovation ou en termes de contrôle, on parle souvent des logements vides, ainsi de suite, est-ce que là, il n'y a pas, soit avec votre comité, peut faire une série de propositions, parce qu'apparemment, il y a une saison 2, si j'ai bien compris.
Il y aura peut-être une saison 2.
Ouais, peut-être une saison 2. Mais en tout cas, est-ce que voilà, c'est pas aussi
sur cette question d'agréer des loyers, on s'est pas attardé là-dessus, en fait. Parce que, disons que ce n'est pas directement la question qui nous était posée, même si c'est indirectement un paramètre de la question plus globale. Mais voilà, on ne s'en est pas saisi, en fait. Et donc, voilà, je sais que c'est une critique qui a aussi été formulée par rapport à notre travail. Le point d'entrée qu'on avait plutôt, nous, c'était vraiment la production. Voilà, c'est pour le dire clairement, c'est cette question de la production et aussi de se dire que, voilà, en fait, il y a des volontés politiques depuis une quinzaine d'années de produire plus. Hein. Moi, je me souviens d'un exposé de Nicolas Bernard où il nous expliquait qu'en fait, le plan 5000 logements, le premier plan du logement, c'était un plan qui visait à produire rapidement 5000 logements pour avoir un effet sur le marché. Production rapide qui a un effet sur le marché qui fait que le prix, tous les de vente, la location, tout ça diminue parce qu'il y a un effet de production massif. Et dans les 5000 logements, ben, on est presque 15 ans plus tard. En fait, on en a fait 3000, un truc comme ça. Enfin, voilà. Mais donc la production, pour nous, est importante. Production, ce n'est pas forcément du neuf. Hein. C'est aussi de la rénovation, de la réaffectation. Mais c'est arriver à mettre sur le marché privé, mais aussi le marché public ou répondre à la demande du logement social, mais rapidement, ce qui est le grand défaut, ce qui ne se fait pas, en fait, voilà, pour le moment. Alors, du coup, peut-être par rapport à la question du plan d'urgence logement, etc., un des apports qu'on a eu, ça a aussi été de dire, et ça peut paraître étrange de le dire, mais qu'il faut un pilote, en fait, pour le PUL, en fait, quelqu'un qui s'occupe de l'implémenter. Hein. Et ça peut paraître étrange, parce qu'on peut se dire, oui, quand on fait un plan, un pouvoir public fait un plan, il réfléchit à l'implémentation. Bon, moi, je peux vous citer des tas de plans qui sont faits, et puis après, on dit, bah, tiens, c'est intéressant, puis après, ils sont rangés dans les archives avec d'autres plans. Voilà. Mais donc, sur la question du PUL, là, il y a une équipe qui va être mise en place pour l'implémenter. Hein, donc, ça, c'est aussi un apport qu'on a eu, c'est finalement de se dire, mais on peut faire tous ces plans, mais à un moment donné, il faut implémenter, il faut opérationnaliser, il faut rendre concret les choses. Donc, moi, j'entends les critiques, c'est pas moi qui ai fait le PUL, donc j'entends aussi les critiques sans problème, mais je dirais que l'apport aussi de qu'on a eu, ça a été de dire, voilà, il faut une équipe pour implémenter et mettre en œuvre les différentes mesures. Et elles doivent aussi, à un moment donné, délivrer, hein, elles doivent produire, et puis il faut qu'elles puissent aussi rendre des comptes sur ce qu'elle a fait. Hein. Et ça, c'est un petit peu ce qui ne s'est pas passé ces dernières années sur les différents plans, y compris sur les plans logement, c'est que finalement, il n'y a personne qui n'a jamais rendu des comptes. Voilà, il y a un peu de la comptabilité, plutôt quantitative, qui a été faite dans des observatoires sur les logements, etc. Mais finalement, se dire, mais voilà, on avait, hein, ça fait, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait depuis 2007 qu'il y a un plan logement pour produire 5000 logements sociaux. Voilà, c'est pas fait, c'est pas fini. Alors qu'on voit bien que le privé, enfin, tu l'as évoqué, en 2-3 ans, il l'aurait fait. Alors, je ne dis pas que c'est certainement pas la faute de la SLRV et des pouvoirs publics, mais à un moment donné, de se dire, mais finalement, on doit pouvoir aussi mettre sur la table les raisons de ces freins, pourquoi ça ne se fait pas, quels sont les obstacles, et pouvoir en discuter publiquement. Voilà, moi, je pense que finalement, l'organe, hein, la DUL, hein, Delivery Unit Logement, qui va être mise en place pour implémenter le plan logement, à un moment donné, elle sera aussi tributaire et devra rendre des comptes sur ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, et on devra aussi pouvoir continuer à débattre finalement des raisons pour lesquelles les choses ne se font pas à Bruxelles sur la question du logement.
Clarisse Lambier, vous vouliez réagir sur cette question?
Bah oui, moi, pour revenir un petit peu à la crise sanitaire et aux apprentissages de la crise sanitaire par rapport à ces aspects-là, donc moi, je trouve que ce qui est très positif, c'est de voir qu'un moratoire sur les expulsions est possible. Ça n'avait jamais été... je ne pense pas qu'il y ait un autre moment dans l'histoire où ça s'est passé. Donc déjà, ça, c'est je trouve une dynamique très intéressante parce que c'est comme on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. En fait, c'est possible de tout arrêter par rapport à l'environnement, le climat. C'est possible d'arrêter de prendre l'avion. C'est possible de consommer local. Par rapport au logement, il y a eu ça. Donc le fait qu'il y ait un moratoire. Et puis aussi, hyper important, pendant la crise du logement, c'est la première fois qu'on a réquisitionné des bâtiments. Donc ça aussi, c'est « tout d'un coup, c'est possible ». En fait, il y a une loi qui existe. D'ailleurs, Nicolas Bernard l'a pointé pendant la crise sanitaire. Je pense qu'elle existe depuis les années 90, de pouvoir réquisitionner des logements pour des besoins publics, urgents, etc. Et pendant la crise sanitaire, ça s'est fait pour loger des sans-abri, ça s'est fait pour loger des victimes de violences. Et ça, je trouve que c'est un signal important qui nous est donné en tant que nous, militants sur les questions de relogement, pour ce genre de... Dans ce cadre-là, ça a été possible de réquisitionner des bâtiments. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ce soit possible pour d'autres raisons? Type, il y a 49 000 personnes qui sont sur des listes d'attente d'un logement social. Est-ce qu'on ne réquisitionnerait pas des bâtiments pour cela?
Et par rapport, Benoît Boris, vous évoquiez justement que le logement était redevenu un enjeu politique alors qu'il ne l'était plus ou il l'était moins. C'est pour rebondir. Est-ce que vous, Chloé Salambier, vous avez l'impression aussi que ça redevient un enjeu politique aujourd'hui alors que peut-être ces dernières années, effectivement, on parlait de chiffres.
Pour t'interrompre, la précédente ministre régionale en charge du logement n'a rien fait, en fait. Pendant 5-6 ans, il ne s'est rien passé. Donc voilà, ça c'est un constat que je fais. Personnellement, peut-être que vous ne le partagez pas, moi je vois maintenant quelqu'un qui en parle et qui essaye d'en faire de nouveau une nouvelle politique. Voilà.
Mais vous avez l'impression justement sur cet aspect politique, d'autant que ce qu'on a vu aussi avec le confinement, c'est que les frontières privées et politiques justement se sont effacées par rapport à cette question du logement.
Un des aspects positifs aussi de cette crise, donc c'est effectivement ça a exacerbé toute une série d'inégalités en termes d'accès au logement, en termes de conditions de logement, etc. Mais ça a permis aussi de visibiliser des choses dont nous, on parle depuis des années, donc c'est-à-dire le surpeuplement, les violences conjugales, la problématique des familles monoparentales, le logement et le vieillissement de la population, le fait qu'on n'est plus à Bruxelles avec des ménages type papa, maman, les enfants, on a peut-être, 30% des ménages qui représentent en fait cette typologie. Au-delà de ça, on a énormément de familles recomposées, de familles monoparentales, des personnes isolées. On a aussi beaucoup de personnes qui sont seules et qui ont des difficultés à accéder à un logement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, un des aspects importants de cette crise, c'est d'avoir vraiment visibilisé toute une série d'enjeux et de constats que le secteur associatif, mais aussi le monde académique, pointait depuis très longtemps. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important. Puis moi, je n'ai pas un recul suffisamment important peut-être par rapport à Benoît sur la question du logement à Bruxelles, parce que j'ai fait ma thèse sur Bucarest, donc, sur le droit au logement, mais à Bucarest. Mais j'ai l'impression, effectivement, que la ministre actuelle, Nawal Benhamou, est très impliquée sur ces questions-là, et notamment, justement, étant donné qu'elle a les deux casquettes, logement et égalité des chances, elle est aussi très impliquée sur la problématique du logement, des familles monoparentales, sur la question des violences domestiques, etc. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une grande attention à cette problématique.
Anne-Sophie, même si vous étiez très critique sur le plan d'urgence logement, est-ce que, néanmoins, vous voyez quand même des aspects positifs, par exemple, sur, si pas des solutions, en tout cas des constats qui ont pu être relevés, qui n'étaient peut-être pas auparavant par le politique, et qui le sont parce que la crise l'oblige. Par exemple, il reconnaît, par rapport, même en préambule, que les autres plans n'ont pas fonctionné. Donc c'est déjà
c'est reconnu. Donc en fait, ils vont essayer d'avancer sur les deux précédents plans qui avaient été faits, donc pas d'annonce supplémentaire. Il y a une série de choses qui sont mises en place, une accélération pour obtenir des permis d'urbanisme, un appel aux promoteurs privés pour obtenir des logements qu'on appelle clés sur porte, c'est-à-dire déjà avec un permis d'urbanisme, comme ça, ça va plus vite. Il y a une série de choses qui ont quand même été listées dans ce plan d'urgence, mais ça reste minuscule comparé à l'enjeu. Et je le dis encore, c'est du sparadrap pour l'instant. Et je ne parle pas de Nawal Benamou en particulier, mais du gouvernement bruxellois. Il y a une volonté politique affichée, mais dans les faits, nous, on attend le résultat encore.
Même s'il y a des calendriers, des chantiers. Enfin, par rapport à d'autres plans, c'est vrai ce que vous disiez, Benoît Maury. D'habitude, on a le plan, mais on n'a pas une tentative de calendrier ni les montants. Là, il y a quand même un exercice, en tout cas, de bonne volonté, de bonne foi, on va dire, et qu'on va laisser au crédit du gouvernement. Mais il y a aussi un aspect, vous l'évoquiez, c'est cet aspect de marché et de financiarisation. Ça apparaît quand même aujourd'hui comme un enjeu sur lequel le pouvoir politique, hein, en général, a de moins en moins de prise. Et ça, il y a une espèce d'accélération. Il y avait un article justement de nos confrères d'Apache qui montrait qu'en 2 ans, donc les investisseurs avaient autant acheté, mis d'argent sur le marché bruxellois qu'en 10 ans. Donc entre 2019 et 2021, c'est quand même assez interpellant, ça, cette évolution, cette rapidité-là.
Oui, en effet. Alors, pour l'instant, à Bruxelles, on remarque que ce type d'investissement, ça se fait en particulier sur, par exemple, les seigneuries, donc résidences pour personnes âgées, le logement étudiant, mais aussi le logement de haut standing. Donc, j'avais dit, ça, on produit plutôt ce type de logement actuellement. Et donc, ce qu'on craint, c'est que, qu'il y ait de moins en moins de locataires qui puissent louer à ces prix-là, acheter à ces prix-là. Et par contre, finalement, ces nouveaux logements produits se destinent de plus en plus aux investisseurs plutôt qu'à des gens qui vont l'acheter pour l'habiter. Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait peur. Ce qu'on craint aussi, c'est un phénomène de concentration de la propriété. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de gens qui pourront acheter. Mais parallèlement à ça, il y a quand même une série d'investisseurs qui, eux, sont capables d'acheter. Ça va du plus petit investisseur...
À des fonds de pension.
Etc. Mmh. Donc, c'est de ça qu'on parle de financiarisation du logement. Peut-être que dans le futur, votre logement, il appartiendra à une société qui est cotée en bourse et qui investit dans votre capacité à payer votre loyer. Les pouvoirs publics peuvent aussi avoir un rôle à jouer quand on parle d'encadrement du marché privé. J'ai parlé de l'encadrement du marché locatif, mais on peut aussi réfléchir à un encadrement du marché acquisitif. Et n'oublions pas que le marché du logement à Bruxelles, enfin la production, si on regarde le stock de logements, c'est 90% de logements privés. Et donc il faut agir sur ce segment-là, sinon on loupe l'objectif de rendre accessible le logement à un maximum de personnes, surtout quand on voit les besoins des Bruxellois et des Bruxelloises qui ont peu de moyens.
Benoît Maurice, sur ces aspects de financiarisation, vous vouliez réagir ?
Oui, donc peut-être quelques éléments. Donc les 49 000 ménages, donc 49 000 logements, ça représente plus ou moins, s'il fallait répondre à ce besoin-là, 5 millions de mètres carrés de logements. En région bruxelloise, on a 12 millions de mètres carrés de bureaux. Donc imaginez que tout d'un coup, la moitié du parc de logements de bureaux se transforme en logement. Et on pourrait répondre aux besoins. Mais ça, donc, je ne dis pas qu'il faut transformer tous les bureaux en logements, ce n'est pas ça, mais c'est pour vous donner une idée de la masse que ça représente, cette demande en plus, si elle devait trouver une solution dans le bâti existant. Plus, moi, je pense aussi qu'il va falloir continuer à construire. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que les pouvoirs publics... ils sont soumis, ils n'ont pas forcément beaucoup de foncier, en fait. Hein. Donc, il y a encore un tout petit peu du foncier. Mais donc, la SLRB, le Fonds du logement, CITIDEF, etc., ils partent à la recherche de terrain aussi. Hein. Donc, ils veulent acheter des terrains, des bâtiments, etc. Et alors, ils sont dans un marché immobilier dans lequel ils sont en concurrence avec les acteurs privés dont on vient de parler. Donc,
et les uns avec les autres.
Et les uns avec les autres, en plus, effectivement. Et les uns avec les autres. Donc, c'est assez... ils sont ce système de concurrence. Alors, ils achètent cher, un peu comme les autres, parce qu'il y a de la surenchère sur le prix des terrains, etc. Alors, pour répondre à cet enjeu-là, le comité scientifique logement, mais un point qui se retrouve également dans le plan d'urgence logement, c'est la préemption sur l'ensemble du territoire. Hein, que les pouvoirs publics puissent préempter. Préempter, c'est quoi? Alors, sur l'ensemble du territoire, en plus bruxellois, hein, donc il y a quelques périmètres de préemption. C'est un droit que les pouvoirs publics se donnent, en tant que pouvoir public, de pouvoir acheter prioritairement des biens et de, quelque part, neutraliser le jeu du marché. Et là, je pense qu'il y a une piste qui est vraiment intéressante hein, pour pouvoir acquérir plus facilement, ne pas jouer la surenchère liée au marché qui amène à des projets trop denses parce qu'on a acheté trop cher aussi, y compris pour les projets publics. Et donc, cette piste qui se trouve dans le PUL me semble une piste intéressante. Et il faudra observer son implémentation aussi dans les prochaines années et ses effets. Mais pour l'instant, si je me souviens bien, ce n'est pas encore, il n'y a pas encore de décision du gouvernement à ce sujet-là, mais c'est quand même quelque chose qui devrait être implémenté. Et c'est une piste qui peut également contribuer à neutraliser le prix, ou en tout cas maîtriser la spéculation foncière autour du bâti ou autour des terrains.
Alors, pour clore tout doucement cette émission, c'est d'évoquer aussi un point qui revient à la fois dans le rapport scientifique que vous avez présidé, Benoît Moritz, et dans les travaux que vous menez, Chloé Salambier, c'est toutes ces questions de la résilience au niveau du logement. C'est de, si je résume, hein, c'est de voir aussi comment le logement peut répondre aux crises en général, crise climatique, crise économique, crise sociale et crise sanitaire. Justement, Chloé Salambier, peut-être expliquer en quoi ça consiste cette résilience, parce que c'est aujourd'hui c'est un mot qu'on entend tellement partout. Et justement, vous commencez une vaste étude à ce sujet. C'est de voir comment vous allez, qu'est-ce que vous allez chercher finalement à travers ce sujet.
Effectivement, on commence une enquête qui va durer 4 ans, qui est financée par Innoviris. Cette enquête, elle s'appelle Control H. Donc, Control H, ça veut dire Caretaker Resilience Laboratory of Housing. Et en fait, on a identifié ceux qui, pour nous, ont été des leviers de résilience face à la crise du Covid, mais également face à d'autres crises dans le logement. Et ces deux leviers, ce sont à la fois des caretakers, donc les caretakers en anglais, c'est... ça veut dire concierge, et care support, comment certains espaces ont pu permettre plus de résilience que d'autres. Et donc, on va faire des enquêtes sur cet ensemble de logements collectifs à Bruxelles pour essayer d'enquêter justement, pour voir un petit peu qui a été gardien, gardienne du soin. On travaille sur les théories du care à partir des travaux de Joanne Tronto avec toute cette équipe qui vient d'être engagée. Qui a été gardien, gardienne du soin? Et aussi, est-ce qu'il y a des configurations spatiales qui sont davantage support de ce soin? Parce qu'évidemment, la crise du Covid a mis en exergue le fait que le logement était à la fois un lieu de sécurité, mais aussi un lieu de violence, etc. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Les caretakers, je ne sais plus.
Vous voulez dire à la fois qu'il y a eu des espaces communs, vous parlez des communs, a pu se retrouver, où des solidarités ont pu émerger, que ce soit pour s'occuper des enfants, faire des courses, couper l'isolement des personnes.
Oui, donc c'est... En fait, c'est parti de notre première étude qu'on avait faite pendant le confinement, où on s'est rendu compte que les ménages qui avaient été les plus résilients face à cette crise, donc qui s'étaient en gros, qui avaient eu le moins de difficultés de faire face à cette crise, aussi bien d'un point de vue de leur santé mentale que de leur santé physique, etc., c'était les ménages qui continuaient à avoir accès à d'autres sphères que celles du logement et qui donc pouvaient... aujourd'hui, le logement, ben, c'est vraiment conçu comme juste un espace de repos, de loisirs, etc. Mais pendant le confinement, ben, c'est devenu aussi potentiellement un espace de travail. Enfin, ça a concentré beaucoup de choses. Et dans des logements, en fait, type justement des habitats groupés, des habitats participatifs, etc., qui permettent d'avoir accès à d'autres espaces que son logement, sa cellule, celui de la cellule familiale, d'avoir accès à d'autres espaces, eh bien, c'était protecteur, mais aussi potentiellement beaucoup plus émancipateur pour les personnes qui habitaient ce type d'habitat.
Benoît Moritz aussi dans...
Oui, je rejoins tout à fait Chloé.
En sur
fait,
ces aspects de résilience aussi, le comité est très...
On a fait un pilier de... Il y a un chapitre sur la question du logement comme élément protecteur, mais donc... on a également mis l'accent sur tout ce qui faisait commun dans l'immeuble et qui fait souvent défaut en fait dans le logement contemporain, dans la production actuelle, voilà, qui est souvent plutôt, alors à nouveau simplement l'agglomère des appartements, enfin on agglomère des logements, mais tout ce qui est commun, les espaces de distribution sont très pauvres en fait, sont pas du tout des lieux partagés, des couloirs étroits, pas d'éclairage naturel, des escaliers fermés. Voilà. Donc, une des recommandations, c'est accorder plus de soins à l'avenir dans la qualité de ces espaces et des espaces qui peuvent faire communauté dans les immeubles, en fait. Hein, voilà. Je pense que les gens qui ont habité dans des immeubles appartements où il n'y avait pas un soin apporté à cet espace, ils ont quelque part été confinés dans leur logement et dans leur immeuble, en fait, hein, alors qu'on aurait pu imaginer une autre forme de vie collective. Peut-être encore un autre point. Donc, dans notre comité, on avait eu la chance d'avoir Philippe Rame, hein, qui a fait sa thèse de doctorat sur les liens, enfin une recherche plutôt historique sur les liens entre architecture, climat, santé. Hein, donc, et lui, il a mis beaucoup l'accent sur des éléments, en fait, une mise en perspective aussi de la crise sanitaire par rapport à la crise climatique et le fait qu'il fallait aussi penser le logement aujourd'hui en fonction de l'augmentation des températures, le changement climatique, etc. Et du coup, essayer de repenser le logement comme un élément qui va aussi protéger par rapport à des phénomènes de surchauffe. Et là, à nouveau, on en revient à la question du logement ou du bâti existant. Bah, y a tout l'enjeu de la rénovation, etc., parce que le bâti ancien n'est souvent pas rénové d'un point de vue, enfin, protégé d'un point de vue énergétique, isolé, etc. Et donc, voilà, repenser aussi la rénovation, c'est penser la rénovation du bâti des logements existants, c'est penser dans une perspective aussi à plus long terme du changement climatique et des températures qui vont augmenter les prochaines années. En 2020, je me souviens d'un chiffre donné par Sienzano, il y a eu un excès de 17 000 décès en plus liés à la crise sanitaire et 1 700 décès en plus liés au phénomène de surchauffe au mois de juillet et au mois d'août sur l'ensemble de la Belgique. Mais donc le climat tue en Belgique aussi et on n'en parle pas assez.
Vous vouliez réagir?
Oui, moi je voulais juste parler d'un point de vue plus macro en termes de résilience. La meilleure façon, enfin, pour être résilient justement à cette augmentation des prix qu'on voit sur le marché privé, la meilleure façon d'encadrer ce marché privé, finalement, c'est de produire beaucoup de logements publics. Parce que c'est une garantie que le logement reste accessible. Comme des logements de coopératives et tout ça, on peut parler de cette troisième voie aussi, mais qui nous permettent d'être à l'abri de l'augmentation des prix du marché. Et donc, voilà, je voulais juste clôturer là-dessus pour dire, d'un point de vue macro, c'est essayer de produire ce logement public garanti accessible et de le garder dans le giron public. Et donc, capter aussi toujours plus de terrain, de bâti, pour le mettre à l'abri de la spéculation.
Vous vouliez rajouter quelque chose que
le Sénat? Oui, je voulais remettre en évidence le lien entre ce que Benoît et moi disions cette possibilité de créer des logements avec des espaces communautaires où on remet l'accent sur vraiment cette échelle intermédiaire, hein, qui est vraiment importante dans le logement et où on a très fort séparé dans la façon dont on produit les villes aujourd'hui le privé, qui est le logement, qui ne regarde que les ménages, et puis l'espace public. Et puis, il y a toutes ces échelles communautaires où il y a aussi plein plein de leviers possibles en termes d'organisation sociale, en termes d'organisation juridique, les coopératives et tout ça. Et je voulais remettre ça en question par rapport à ce plan logement, urgence logement, où l'achat de clés sur porte d'appartements, on sait bien que les promoteurs immobiliers ne sont pas les plus innovants en termes de typologie de logement et que justement, étant donné que le logement n'est pas une ressource, mais plutôt un bien marchand, eh bien, on va diminuer toutes ces surfaces, en fait. Et donc, il y a une tendance quand même à une individualisation très forte dans ce type de logement, alors que les pouvoirs publics devraient être quand même les porteurs d'un horizon vers une socialisation du logement, vers le fait que le logement puisse aussi décloisonner ces séparations entre privé et public et qui puisse être un lieu aussi beaucoup plus politique qui permet d'accéder à des formes de citoyenneté où par les gouvernances dans le logement, quelque part, on puisse aussi faire en sorte que des personnes qui sont peu ou pas entendues dans la société puissent être reconnues, entendues et puissent débattre de questions plus macro, justement.
Eh bien, merci à tous les trois. Vous l'avez compris, le débat est loin d'être fini, la réflexion aussi. Et c'est aussi, étant donné qu'à Bruxelles, nous sommes une majorité de locataires, à vous de faire du bruit et à vous faire entendre auprès des politiques et du suivi des politiques qui sont menées.
Fin mars, il y aura une manifestation pour le droit au logement, probablement ici à Bruxelles. Donc, ce sera le dernier week-end de mars. Donc, notez déjà dans vos agendas cette date. Comme ça, peut-être qu'on aura les 40 000 personnes dont Benoît parlait tout à l'heure dans la rue.
Alors, il est temps de clôturer. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je pense notamment à Marie-Ève Merckx, à la réalisation, à la technique et au reste, et à ceux qui nous ont accueillis. Vous pouvez retrouver tous ces détails dans la dernière Alter Echo, dont le dossier, vous l'aurez compris aussi, est consacré au logement. Le logement à l'abri de rien, qui aborde autant les questions à Bruxelles qu'en Wallonie, et il n'en manque pas. Merci à vous et à bientôt.
Merci. Logement à Bruxelles, la crise à tous les étages. Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient, et Géopolis Euradio.